C'est ce que j'ai appelé le passage de la France-Afrique à la mafia-Afrique, qui s'opère en particulier au large de l'Angola. Ce que je vous ai décrit jusqu'à présent, c'est un système, ce que j'appelle la face cachée de l'iceberg. C'est-à-dire que l'indépendance, c'est la face émergée de l'iceberg, immaculée, les relations officielles. Puisqu'il y a confiscation des indépendances, la face inavouable, la face cachée, occulte, elle est beaucoup plus importante que la face émergée. C'est cette face cachée de la relation franco-africaine que j'appelle la France-Afrique. Cette France-Afrique, elle a en particulier une forte présence des services secrets, parce qu'on n'est pas dans l'officiel, et une forte présence des finances parallèles. On a de grandes nappes de flux parallèles issus de la rente des matières premières, issus du détournement de l'aide publique au développement et du détournement de toutes ces prêts à l'Afrique qui vont constituer la dette, mais qui, en fait, pour la plupart, ne sont jamais arrivés à l'Afrique. Donc, on a cette nappe très surveillée par les services secrets, mais qui va aussi aux partis politiques, ce qui les empêche d'en parler, qui est vécue dans une perspective nationale. Au milieu des années 90, on s'aperçoit autour de l'Angola que les différentes nappes nationales équivalentes dans la relation parallèle financière avec le Sud qui passe par les paradis fiscaux, la nappe américaine, la nappe britannique, la nappe sud-africaine, la nappe brésilienne, la nappe israélienne, la nappe russe, etc. Tout ça est en train de s'interconnecter à travers un certain nombre de grands intermédiaires comme par exemple Arkady Guédamac ou Pierre Falcon autour de l'affaire de l'Angola Gate, qui sont protégés par de nombreux services secrets, qui représentent à eux seuls tout un G7 ou un G8. Et tout ça s'interconnecte. Et donc on a une sorte de coupole mafieuse pour gérer les richesses du Sud, et non plus seulement une perspective seulement nationale. Quand il y a la paix à l'intérieur de cette coupole mafieuse, la guerre civile en Angola, qui était entretenue depuis 1976 par toutes les puissances, elles finançant à la fois le gouvernement et la rébellion, via d'un côté M. Tarallo et de l'autre côté M. Sirven. Donc, cette guerre interminable s'arrête. Les États-Unis, qui soutenaient le rebelle Savimbi contre un gouvernement qui était autrefois marxiste, signalent la position de Savimbi dans le maquis, et Savimbi est descendu, et la paix revient. Quand le deal, le partage n'est pas fait comme au Congo-Kinshasa, la guerre mafieuse continue. Donc, dans les années 90, on était encore dans une perspective d'arriver à des deals assez facilement entre les Français et les Anglo-Saxons. Dans les majors pétrolières, il y en a 4 ou 5, Exxon, Chevron, BP, Shell, qui sont du côté des Anglo-Saxons. Il y a Total Elf qui est du côté des Français. Et puis, dans le nouveau G8, il y a aussi un major qui s'est constitué autour de Yukos et de Khodorkovsky. Bon. Donc, tout ce monde-là était dans une perspective de se mettre ensemble. Mais l'affaire de la guerre en Irak a introduit un clivage réel tout à fait considérable. Jusqu'à présent, étant donné la proximité des États-Unis des néo-gaullistes, et en particulier de Jacques Chirac, étant donné que la France-Afrique était une sous-traitance de l'Alliance Atlantique. En fait, le discours anti-anglo-saxon porté par un Charles Pasqua était pour moi de la propagande à usage subalterne. Parce qu'en fait, Charles Pasqua a été toujours très proche des milieux dirigeants, des milieux dirigeants américains, et ça, on peut en donner de multiples preuves. Et le pasquoyen Pierre Falcon, par exemple, a été le plus gros contributeur de la campagne de George Bush. Et donc, en quelque sorte, la position hostile de la France à la guerre en Irak a été vécue par ces milieux-là comme un coup de poignard dans le dos. Et du coup, les affrontements en Afrique sont plus vifs.